Reportage de Michel Sourget pour Alternante FM.
Comme on n'était pas tout à fait frais, vous allez me redire tout ça.
Non, ça tourne.
Déjà ?
Non, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
À la base, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
It's time to start. High time to start. Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il fait beau, il fait chaud, y compris dans ce studio. Et c'est l'occasion de vous rappeler que si vous cherchez de la fraîcheur, les salles de cinéma sont ouvertes et climatisées. Et pour ces vacances de la Toussaint, la programmation proposée est particulièrement copieuse. Je parle de salles de cinéma car vous êtes à l'écoute de Caméra Subjective, le magazine consacré au cinéma sur Radio G. Et ce soir, dans le studio, une belle équipe, une équipe féminine, est studieusement installée derrière les micros et la console. Bonsoir Anne-Lie.
Bonsoir Margot.
Bonsoir Lisa.
Bonsoir.
Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
Bonsoir Sandra.
Bonjour.
Bon, et personne ne va dire bonsoir Margot, mais c'est bien moi qui vous parle. Et donc, toutes ensemble, nous allons parler genre. Genre de film, genre cinématographique. Sandra nous présentera tout à l'heure le mois du doc, un rendez-vous consacré au documentaire qui se tient en novembre dans les médiathèques et les salles de cinéma de tout le département.
Et d'humeur de Matt, ce sera en toute fin d'émission.
Et tout de suite, alors que nous venons d'apprendre le Pierre Soulages, qui avait donné au noir ses lettres de noblesse, Véronique accueille Xavier Kawatopor, l'un des plus éminents spécialistes d'un genre de cinéma qui fait la part belle à la couleur. Je veux parler, bien sûr, du cinéma d'animation.
Bonsoir, Xavier Kawatopor.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté de nous rencontrer lors de cette émission. Vous êtes historien, auteur et délégué général de l'association Nouvelles Écritures pour le film d'animation basé à l'abbaye de Fontevraud. Nous sommes très heureux de dialoguer avec vous ce soir. Nous avons fait un petit clin d'œil à Monsieur Soulages. Je pense qu'il vous parle particulièrement, si vous voulez nous en dire deux mots.
Oui, ben je viens d'apprendre sa disparition dans la voiture tout à l'heure, donc je suis un peu pris sur le vif. J'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs occasions, notamment au moment où il posait les vitraux de l'abbatiale de Conques. J'ai eu cette chance de le côtoyer à ce moment-là, de l'inviter également à l'abbaye de Fontevraud, où j'en étais le directeur, pour une rencontre avec Jacques Le Goff. C'était une personnalité vraiment importante, évidemment comme en tant que peintre et qu'artiste, mais c'était aussi une personne qui avait le talent particulier de faire grandir les gens qu'il côtoyait. Voilà, donc c'était une expérience extrêmement stimulante, extrêmement belle, humainement, que de le côtoyer, que de discuter avec lui. Voilà.
Merci pour ce petit message et nous allons dédier cette émission à Pierre Soulages. Je vous propose de poursuivre cet échange autour d'une question qui me trotte dans la tête depuis un moment. Xavier Kawatopor, pourquoi avez-vous choisi de créer en 2015 une association professionnelle de cinéma d'animation dédiée spécifiquement à l'écriture ?
Bien. Écoutez, c'est en fait l'aboutissement d'une longue réflexion, d'une longue expérience. Alors sans remonter jusqu'à Conques, il s'avère que lorsque j'ai dirigé l'abbaye de Fontevraud, j'ai inscrit dans le projet de l'abbaye le fait de développer des résidences de création dans différents domaines, et notamment dans le domaine du film d'animation, parce que je sentais bien qu'il y avait une véritable effervescence créative dans ce domaine-là, dans ce secteur-là, et que pour autant, les possibilités offertes aux artistes de se consacrer vraiment à la création, et en particulier à la première étape de la création, c'est-à-dire comment on passe d'une idée à un projet, étaient finalement assez peu nombreuses, pas assez nombreuses, et qu'un lieu inspirant comme l'abbaye de Fontevraud pouvait vraiment aider, accompagner, soutenir ces auteurs-là à ce moment extrêmement fragile, sensible, où on pose les premiers mots, les premières images de ce qui va devenir, un film. Et puis cette expérience a grandi naturellement, parce que les auteurs et les autrices d'animation ont manifesté énormément d'attachement. Nous avons reçu des candidatures, des demandes de résidence du monde entier. Et au moment où j'ai quitté la direction de l'abbaye de Fontevraud, il est apparu comme une forme d'évidence qu'il fallait non seulement continuer cette aventure-là, mais lui donner davantage de développement. Voilà, c'est comme ça que la Nef Animation est née, pour effectivement faire en sorte que la profession de l'animation dispose d'un outil qui lui permette d'investir, de trouver des formules, des actions, des initiatives qui permettent de soutenir la démarche de création, encore une fois, tout à fait à ses balbutiements.
Il est vrai que depuis sa création, Nef Animation est une association reconnue dans le milieu professionnel. Vous y organisez des rencontres, participez à la mise en place de colloques, de programmes de recherche et des publications. Mais pour nos auditeurs, ce que je vous propose, c'est peut-être de parler en particulier de vos résidences d'écriture pour les jeunes auteurs. Par exemple, et pour commencer, comment sélectionnez-vous les auteurs ?
Alors, c'est toujours très compliqué de sélectionner les artistes parce que par nature, les artistes ne peuvent pas être comparés les uns aux autres. Donc la compétition est vraiment toujours contre nature d'une certaine manière. Alors ce qu'on essaye de faire, alors on reçoit effectivement beaucoup de candidatures. Donc d'une part, ce qui est important, c'est d'avoir un regard collectif. Donc la première des choses, c'est qu'on a un jury fait de personnalités de l'animation différentes, des réalisateurs, des réalisatrices, des dessinateurs, des formateurs aussi, qui examinent les différentes candidatures que l'on reçoit. Et puis, ensuite, les critères en fait que je donne à ce jury, c'est d'essayer de sélectionner des projets qui représentent un enjeu particulier. C'est-à-dire soit un enjeu parce que c'est le premier film professionnel d'un jeune talent. Et donc c'est important de l'aider, de le soutenir à un moment où il engage sa carrière professionnelle. Soit parce que c'est le projet d'un auteur qui, par exemple, ou d'une autrice qui a une œuvre derrière elle ou derrière lui, mais qui va prendre là une direction un petit peu différente, qui va faire un pari, soit de changer de technique, soit de changer de format, il passe du court au long métrage, bref, qui prend un risque. Et il est important de l'accompagner dans ce risque-là, soit enfin parce qu'on pense que ce projet est de nature à apporter une nouveauté dans le domaine de l'animation, une forme de risque là aussi. Voilà, donc c'est vraiment les critères essentiels. Et puis l'autre critère qui est vraiment important, c'est vivre un mois en résidence à Fontevraud, c'est vraiment une expérience très immersive, et c'est important que le candidat, la candidate exprime véritablement sa motivation et qu'on comprenne, concerne bien comment cette expérience particulière, cet écosystème un peu particulier de la résidence, correspond vraiment à sa demande. Parfois, le besoin est au contraire de travailler à ce moment-là du projet dans un studio, de travailler avec un producteur. Donc, dans ces cas-là, on ne sélectionnera pas le projet. On sélectionne vraiment le projet parce qu'on pense que là où il en est, il a vraiment, l'auteur ou l'autrice a vraiment besoin d'être face à face avec lui-même, d'être face à face avec ce projet et de s'immerger, d'être coupé des sollicitations du quotidien, pour vraiment approfondir son travail d'écriture.
Et en quoi cette résidence dédiée plutôt à l'écriture permet-elle aux auteurs en fait d'affirmer cette démarche ?
Eh bien, Je pense que précisément les auteurs, les autrices qui viennent à Fontevraud savent qu'ils ont été sélectionnés. Alors dans une session, dans une résidence, ils sont une petite dizaine et on a reçu plus de 200 candidatures. Et comme vous le disiez, la résidence a vraiment une notoriété internationale. Donc ils savent qu'ils ont été sélectionnés et que c'est parfois un véritable parcours du combattant. Donc la première des choses qui est vraiment importante, c'est que cette sélection, ils la prennent pour eux comme un encouragement, comme tout d'un coup quelqu'un, un jury qui leur dit ce que vous faites est vraiment digne d'intérêt, est vraiment important, continuez. Non seulement continuez, mais prenez un mois pour ne faire que ça, c'est-à-dire aller au plus possible au bout de vos idées, couper avec les sollicitations du quotidien, couper avec le travail alimentaire que vous devez faire par ailleurs, couper avec la vie de tous les jours, parce que c'est important que vous alliez au bout de cette démarche-là. Et en fait, ce que nous disent les résidents, c'est que, et c'est vraiment le côté très positif de cette expérience, quand on leur demande qu'est-ce que la résidence vous a apporté, ils nous disent j'ai travaillé un mois à Fontevraud comme je n'aurais pas travaillé c'est l'équivalent pour moi, ou c'est même mieux, c'est une qualité de travail qui est supérieure à 6 mois de travail chez moi, ou même parfois un an, parce que un mois à ne faire que ça, évidemment on va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans la concentration, dans l'approfondissement que 6 mois à essayer de trouver une heure par-ci par-là pour travailler. Donc ça, c'est vraiment la valeur ajoutée de cette résidence.
Est-ce que vous pourriez nous citer des exemples de films sortis de ces résidences, certains qui vous ont marqué ou qui ont marqué aussi l'actualité du cinéma?
Oui, c'est toujours très difficile de faire des choix parmi tous les films qui sont passés par Fontevraud. Je vais en citer qu'un parce que c'est le premier et ça a été le film qui a été le plus long à faire. C'est La Traversée de Florence Mia, donc un long métrage qui est sorti cette année ou en fin d'année dernière, long métrage en peinture animée. Florence Mia est la première personne qui soit venue en résidence à Fontevraud. À cette époque-là, il n'y avait pas encore d'appel à candidature, donc c'est moi qui l'ai invité à venir parce que je créais la résidence, parce que je savais que cette réalisatrice qui a une œuvre absolument extraordinaire en peinture animée, qui est très reconnue, qui a gagné un César et etc., ambitionnait de faire un long métrage. Et c'est un défi complètement fou dans une technique particulière de peinture animée qui fait que on travaille en solo, que c'est un travail extrêmement graphique qui n'est pas du tout industriel, c'est extrêmement artisanal. Envisager un long métrage, c'est envisager de gravir une montagne véritablement. Donc je l'invitais à venir à Fontevraud pour en gros l'aider à démarrer ce projet, à démarrer dans cette ambition. Voilà. Et c'est effectivement le retour de Florence Miaille qui nous a dit combien cette résidence avait été précieuse, qui nous a encouragé à poursuivre et qui a aussi donné tout de suite une notoriété à la résidence. Il a fallu 15 ans à Florence, non pas pour écrire son film, non pas pour l'animer, mais surtout pour trouver le financement pour le faire. Et ça a été un parcours du combattant encore plus important que ce qu'elle pensait et que ce que j'envisageais aussi, parce que, effectivement, faire un long métrage dans un style, une esthétique qui n'est pas qui n'est pas mainstream, qui n'est pas celle du dessin animé ou de la 3D à la façon Pixar, mais qui est effectivement de l'animation poétique, même si elle s'adresse absolument à tout le monde, eh bien c'est long, c'est extrêmement long de trouver à convaincre et de trouver à la financer. Voilà, donc il y a eu quasiment 10 ans, 10 ans ont été nécessaires pour trouver le financement pour le faire, puis à peu près 5 ans pour effectivement réaliser le film dans des pays différents, avec des budgets vraiment très, très serrés. Mais alors, quelle merveille de voir ce film fini, et quelle récompense de penser qu'on a participer à allumer la mèche au départ de ce qui est vraiment un grand film qui restera dans l'histoire du cinéma.
Je partage votre admiration sur ce film. On pourrait dire qu'elle est devenue un petit peu la marraine de vos résidences et de la nef.
Oui, allez, absolument. C'est la marraine de la nef. Super. Informelle, bien sûr, ouais. Mais c'est l'une des bonnes fées de la nef.
Oui, tout à fait. Xavier Kawatoport, dans la continuité de votre démarche, vous avez lancé à la rentrée un master écriture cinématographique et récits animés à l'École supérieure des beaux-arts d'Angers. On appelle École supérieure d'art et de design aujourd'hui, en partenariat avec le festival Premier Plan. Que s'est-il passé pour que émerge cette formation à Angers ?
Bon, alors d'abord, il faut dire que c'est une initiative de l'École des Beaux-Arts d'Angers. C'est effectivement leur initiative qui est née d'une pratique d'atelier vraiment intéressante qui a été menée autour d'un enseignant, Mathieu Delalle, et qui, je crois, a donné envie d'approfondir cette démarche-là. Et effectivement, l'École des Beaux-Arts d'Angers a sollicité Premier Plan et la nef pour accompagner cette démarche-là, s'y associer, dans une très belle idée, je trouve, qui est d'une part travailler en commun, nous on adore, et puis d'autre part associer un festival formidable comme Premier Plan, qui n'est pas spécialisé pour le cinéma dans le cinéma d'animation, mais qui a toujours fait une très très belle part au cinéma d'animation, et qui est tout simplement un formidable festival de cinéma, notamment tourné vers les jeunes talents. C'est une très belle idée, et puis la nef pouvait effectivement y apporter une expertise plus particulière du secteur de l'animation en tant que tel. Voilà, donc l'idée est née comme ça, d'une envie de l'École des Beaux-Arts, d'une rencontre et d'une complicité, il faut le dire, au long cours. Nous, on est très très heureux de la complicité que l'on a depuis le début avec Premier Plan. Et donc, voilà, lorsqu'on a été sollicité, on a dit tout de suite oui. Et aussi parce que le projet consistait à créer justement une formation, un parcours autour de la notion d'auteur. Autour de la notion d'auteur et d'autrice, c'est-à-dire précisément qui pointait sur le cœur de métier de la nef animation. Voilà. Donc cette formation, elle est préfigurée cette année. Elle est lancée avec un ensemble, un groupe restreint d'étudiants. On la préfigure, on la teste, on l'expérimente. Mais elle est déjà grandeur nature. Et puis l'idée, eh bien, c'est de pouvoir effectivement, on l'espère, consolider cette formation et lui donner davantage d'ampleur dans les années à venir.
Par rapport à cet intitulé de master, écriture cinématographique et récits animés, j'avais une question plus précise, c'est en quoi, qu'est-ce qu'écrire pour le cinéma d'animation, et en quoi cela est-il différent par exemple d'un cinéma de fiction ?
Oui, alors c'est une vaste question. C'est une vaste question, donc je vais essayer de ne pas être trop long dans mes réponses, parce que j'ai cette fâcheuse habitude. Mais le titre a été trouvé par Mathieu Delalle, et moi j'aime beaucoup ce terme, cet acronyme, parce qu'on parle d'écriture cinématographique. Alors la première chose, je vais répondre à l'envers de votre question en disant que moi je fais partie des gens qui considèrent que le cinéma d'animation, c'est d'abord du cinéma, et que l'écriture de l'animation, c'est de l'écriture cinématographique. Mais effectivement, elle est un peu spécifique. Non pas parce que l'animation est un genre. J'ai entendu l'introduction de votre émission, et l'animation n'est pas un genre. L'animation, c'est un ensemble de techniques qui permettent d'aborder tous les genres. On peut faire de la science-fiction, on peut faire de l'horreur, on peut faire du polar, on peut faire de la comédie dramatique en animation. Mais c'est un ensemble de techniques qui effectivement diffère, qui est plus vaste. En fait, la palette est plus vaste que l'image réelle. Et c'est-à-dire que dans l'écriture de l'animation, bien sûr, le scénario rentre en compte. Bien sûr, la mise en scène, l'écriture cinématographique, c'est-à-dire le montage, le cadrage, bref, tout ce qui appartient à l'écriture du film en tant que tel, relève aussi de l'écriture cinématographique. Mais il y a aussi une écriture plastique. Parce que certains réalisateurs d'animation utilisent, on parlait tout à l'heure de peinture animée, on comprend bien que l'écriture picturale, l'écriture plastique en fait partie. C'est une écriture qui est beaucoup plus diverse en réalité, et il n'y a pas une façon d'écrire l'animation, mais bien davantage. Il y a aussi des formes qui sont très différentes. Il n'y a évidemment rien de commun entre une écriture expérimentale, d'un film d'animation expérimental qui va être non narratif, par exemple, avec avec une écriture beaucoup plus narrative. Bref, quand vous regardez des films aussi divers que J'ai perdu mon corps, par exemple, qui pour moi a une écriture très cinématographique, il est très proche de l'image réelle, dans ses effets de cadrage, de montage, un vocabulaire qui est très proche, comme Satoshi Kon ou des grands réalisateurs japonais qui ont une écriture très cinématographique. Donc là, on est très proche, on borde la prise de vue réelle. Et lorsqu'on parle notamment, par exemple, d'un cinéma comme celui de Florence Miaille, pour essayer de pas trop diversifier les exemples, eh bien, chez Florence, il y a une écriture plastique qui appartient à la peinture. Et il y a encore un autre type d'écriture qui appartient au mouvement lui-même, au mouvement dessiné lui-même. Un exemple, une des figures de style de Florence, c'est la métamorphose. C'est comment une image se métamorphose de façon fluide, parce que la peinture est animée image par image, dans une autre image. Voilà, donc cette figure de style de la métamorphose, par exemple, elle n'existe pas au cinéma. Lorsqu'on fait elle est très cantonnée aux effets spéciaux. Alors que pour l'animation, c'est une façon naturelle d'enchaîner, de passer d'une image à une autre, d'une idée à une autre.
Je vous remercie pour ce point de vue et cette ouverture sur ces questions d'écriture. J'aurais peut-être une dernière question, parce que je vois que le temps passe, et peut-être que j'aurais grand plaisir à vous réinviter pour échanger sur plein d'autres sujets du cinéma d'animation. Je voulais quand même voir avec vous, pour le grand public, ça c'est une autre question peut-être, c'est le grand public pense que le cinéma d'animation c'est pour les enfants, c'est une idée reçue, Walt Disney a beaucoup contribué à cela. On sait qu'aujourd'hui, il y a toute une émergence d'un cinéma d'animation, pas que pour les enfants. Et est-ce que vous pourriez nous en donner quelques exemples, ou savoir comment cela renouvelle profondément le genre, enfin, la technique du cinéma d'animation?
Ou le domaine.
Ou le domaine, voilà, pardon.
Oui. En réalité, le cinéma d'animation a toujours été pour adultes, mais le problème, c'est un problème de production et de diffusion. C'est que, comme on considérait qu'il n'y avait pas d'autre public que le jeune public, on n'a pas donné les moyens à des auteurs de faire exister des films adultes et d'être vus en dehors des festivals, en dehors du court-métrage. Mais en fait, quand on regarde l'histoire du cinéma d'animation, depuis le début, il y a des auteurs, des grands artistes qui travaillent absolument pas pour les adultes. Je citerai un film qui est pas si ancien que ça, mais qui a quand même 50 ans, mais qui le montre bien, c'est La planète sauvage de René Laloux, qui est un film qui a fait beaucoup parler de lui et qu'on peut montrer à des enfants, mais c'est pas un film pour enfants du tout. Voilà. Donc l'animation peut ça depuis le départ. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que avec un changement de génération, avec un public qui a finalement une culture de l'image beaucoup plus vaste que ce que l'on avait, effectivement, il y a de plus en plus de publics pour l'animation et de public adulte. Donc effectivement, vous avez des films là depuis une toute petite dizaine d'années. On voit dans le domaine du long métrage plein de propositions que l'on ne pouvait pas voir avant, qui sont des films pour adultes. Alors je parlais tout à l'heure de J'ai perdu mon corps, qui est un film pour adultes, en tout cas pas pour enfants, mais on pourrait citer dans d'autres registres Joseph, qui est un film qui parle donc de cette question de la mémoire des camps de réfugiés républicains espagnols en France à la suite de la guerre d'Espagne. On pourrait parler des Hirondelles de Kaboul, on pourrait parler de Ma famille afghane, qui sont à chaque fois des regards sur le monde, sur une situation géopolitique vue à travers une expérience sensible. Il y a bref une palette qui s'étend aujourd'hui dans tous les genres. Je parlais tout à l'heure de La planète sauvage, qui était pionnier dans le domaine de la science-fiction. Et bien actuellement, il y a des grands films de science-fiction en long métrage qui sont en train de se préparer, qui vont sortir, comme Mars Express, thriller fantastique, un thriller de science-fiction, voilà, qui sont en train de révéler au grand public sur les écrans toute la palette possible du cinéma d'animation.
Merci beaucoup Xavier Kawatopor pour la richesse de cet échange. Nous allons le quitter, et puis je voudrais juste rappeler que sur la page de l'émission, vous pourrez retrouver les liens des sites internet de la Nef Animation, mais aussi de la revue Bling Blanc, dont nous n'avons pas eu le temps de parler, et aussi des ouvrages que vous avez pu éditer au cours de votre carrière professionnelle. Merci infiniment.
Avec grand merci.
À bientôt.
À bientôt. Thank you.
Merci pour cette pause musicale, Married Life de Michael Giacchino, extrait de la BO du film d'animation Là-haut, sorti en 2009. Vous écoutez Caméra Subjective, l'émission qui vous parle de cinéma sur Radio G. Sandra, tu mets à l'honneur le format documentaire dans ta chronique « Mois du doc » et tu nous parles de l'événement « Le mois du film documentaire ».
Et oui, novembre, c'est le mois du retour des bonnets et chocolats chauds, les jours fériés, Thanksgiving, mais c'est aussi, roulement de tambour, le mois du film documentaire. Tada ! Ce n'est pas moi qui le décrète, c'est l'association Images en Bibliothèque qui coordonne ce dispositif national depuis 2000, avec l'appui du ministère de la Culture, du CNC et de nombreux partenaires régionaux. Les objectifs de cette action, mettre à l'honneur ce genre méconnu, découvrir des films, partager ses réactions sur la projection et, potentiellement, échanger ses idées sur le monde. Mais, me direz-vous, qu'est-ce que c'est qu'un documentaire ? Selon le dictionnaire technique du cinéma, il s'agit, je cite, « d'un film de caractère didactique ou informatif qui vise principalement à restituer les apparences de la réalité ». Des images du réel, donc. Ok. On oppose souvent le documentaire à la fiction. Mais je trouve plus juste de dire qu'il s'en différencie. Car le docu peut jouer avec les mêmes codes que la fiction en termes de mise en scène ou de montage, tout comme une fiction peut être très documentée. Et si certains films visent à instruire, d'autres se distinguent par une vraie démarche de création. Voilà, voilà. Avec le mois du doc, comme disent les habitués, on cherche à provoquer le dialogue en s'intéressant au fond, le sujet, comme à la forme, la façon dont il nous est présenté. Si Images en Bibliothèque est porteur de propositions, les organisateurs locaux sont libres de partir dans la direction qu'ils souhaitent. Les modes de fonctionnement, orientation de programmation et lieux varient beaucoup d'une région à l'autre. Alors, intéressons-nous à ce qui va se passer au niveau local. En Maine-et-Loire, c'est le Bibliopôle, le réseau de lecture publique du département, qui soutient l'opération, en apportant une aide à la diffusion et un relais de communication. Cette année, l'Anjou accueillera une trentaine de séances dans des cinémas, des bibliothèques, mais aussi des centres culturels, des salles de spectacle et même dans un moulin. J'ai évoqué le fait que le but était d'inviter les spectateurs à la discussion. De fait, une dizaine de rendez-vous prêteront à un échange en présence des réalisateurs et la plupart des autres projections se dérouleront avec l'accompagnement d'intervenants divers. Reflet du présent, on observe certains thèmes récurrents dans la programmation. Au cœur des préoccupations, la migration, l'environnement, la société française actuelle. De façon totalement subjective et pour des raisons très différentes, moi je voudrais plus particulièrement attirer votre attention sur trois dates. Tout d'abord, le vendredi 11 novembre à 20h, on la joue Ancrage local à la bibliothèque de Montigné-lès-Rairies avec le film « Nous, la danse, une année avec les étudiants du CNDC ». Perso, j'y vois une occasion de découvrir l'histoire du réputé Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, de faire connaissance avec une discipline artistique à laquelle je ne connais a priori pas grand-chose, et d'observer le cheminement de jeunes adultes qui se construisent en tant qu'artistes. Ensuite, le samedi 19 novembre à 17h, le parcours en festival et le thème de Camera Kids m'entraîneront à Denay. Avec ce long métrage, direction l'Inde, où les enfants de prostituées d'un quartier chaud de Calcutta s'initient à la photographie et posent un regard sur leur monde. Ce film a reçu le prix du public du Festival de Sundance et l'Oscar du meilleur film documentaire à Hollywood. Voilà de quoi attirer ma curiosité. Enfin, le jeudi 24 novembre à 20h30 sera diffusé le documentaire Le cas du castor à Loire-Odyssée, à Saint-Mathurin-sur-Loire. Une projection dont je veux saluer la démarche, parce qu'elle a lieu dans un lieu d'exposition, ce qui a le mérite de décloisonner les pratiques, et surtout parce qu'elle se fera en présence d'un interprète en langue des signes français, ce qui fait plaisir à la défenseuse de l'accès à la culture pour tous que je suis. Bon, vous l'aurez compris, il y en a pour tous les goûts dans cet événement automnal. Le petit plus, c'est que la plupart de ces séances sont gratuites. Et pour faire votre propre programme du mois du film documentaire, je ne peux que vous conseiller vivement de vous procurer la plaquette à disposition dans maintes lieux culturels ou tout simplement d'explorer le calendrier sur le site web dédié moisdudoc.com. Peut-être nous y croiserons-nous et je vous souhaite à tous de bonnes projections.
Merci Sandra. Nous retrouvons Matt pour son billet d'humeur, toujours aussi piquant.
Eh bien bonsoir, chers auditeuristes de Caméra Subjective. Malheureusement, ce soir, je ne peux pas être présent dans les studios de Radio G, en compagnie de cette merveilleuse équipe que vous pouvez écouter un mercredi sur deux. Mais rassurez-vous, lors de mon dernier passage dans l'émission, je vous avais promis une chose, celle d'aller au cinéma pour vous parler des dernières sorties. Alors, chose promis, chose due. Vous vous doutez bien que, étant donné la situation actuelle dans le monde, j'ai eu besoin d'être bouleversé. De voir un film remettant en cause la société, un regard neuf, frais, dépeignant avec justesse les maux de notre civilisation. Du coup, je suis allé voir Jacques Mimoun et Le secret de Valverde, de Malik Bentala. Ce film nous raconte l'histoire donc de Jacques Mimoun, devenu une star de l'aventure grâce à son émission de télévision. Il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jacques Mimoun sur Valverde à la recherche de la légendaire épée du pirate La Buse. Voilà, voilà, voilà. Donc avant de vous donner mon avis, je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce.
Je m'appelle Jacques Mimoun.
Bon, j'ai que 4 minutes de chronique, donc je vais pas non plus vous mettre toute la bande-annonce. Donc maintenant, je vais pouvoir vous livrer mon expérience de cinéma. Alors tout d'abord, les sièges étaient très confortables. Le pop-corn grillé à souhait, je dirais. La place un peu chère, pour tout vous avouer. Hein, parfois, il y a des enfants qui font croire qu'ils sont plus grands pour aller voir des films destinés à un public averti. Moi, j'ai voulu faire croire que j'étais un enfant pour avoir un tarif préférentiel. Autant vous dire qu'avec mon 1m80 et mes 104 kilos, c'est difficilement passé au guichet. Bref, on est surtout là pour parler du film. Mais avant, je tiens quand même à signaler que je suis très heureux de voir ce genre de production en France, parce que c'est vrai qu'un film d'aventure français, c'est rare. Hein. Je pense que le dernier en date, ça devait être Les Visiteurs, de Jean-Marie Poiré. Excusez la comparaison, mais entre Jacouille qui fait jour-nuit avec un interrupteur et Indiana Jones, mon choix est vite fait. Hein. Mais ce n'est toujours pas le sujet. Hein. D'autant plus que l'année où est sorti Les Visiteurs, c'est Jurassic Park qui était sorti aux États-Unis, pas Indiana Jones. Et puis, de toute façon, Jean Reno, même en armure, il fait pas le poids face à un T-Rex. D'ailleurs, je me demandais si on faisait un remake français de Jurassic Park, quel pourrait être le casting ? Probablement Gérard Jugnot dans le rôle de John Hammond, Éline Renaud dans le rôle du T-Rex. Voilà, donc si des producteurs m'écoutent, j'ai plein d'idées. Qu'est-ce que je disais moi déjà à la base ? Ah oui ! Donc c'est pour ça, du coup, que je suis content de voir des films comme Jacques Mimoun sortir en France, des films d'aventure. Voilà, voilà. Ben, je vois qu'il me reste 30 secondes de chronique, donc je vais vous laisser avec la bande-annonce.
Je m'appelle Jacques Mimoun.
Ah, mais non, j'ai oublié de donner mon avis du coup. Alors, mon avis sur le film, François Damien, c'est très drôle, et le film est pas ouf. Voilà, à la prochaine, chers auditeuristes.
Merci Matt, très heureuse de savoir que tu as été au cinéma pour nous conseiller plus ou moins un film. Nous aussi on a été dans les salles et on a des films qu'on a très envie de vous conseiller. Margot, lequel voudrais-tu nous recommander ?
Alors oui, déjà je m'interroge quand même pour savoir si Matt a franchi la porte du cinéma ou pas.
Oui, c'est de l'investigation.
Effectivement, en tout cas, moi je l'ai franchi et je suis allée voir il y a quelques jours un film qui s'appelle « Les enfants des autres ». Qui est un... Alors, j'ose plus parler de genre de film, hein. Vous avez bien compris pourquoi. Mais je dirais quand même que c'est un drame français réalisé par Rebecca Zlotowski et dont il me semble que l'originalité, et ce qui fait surtout probablement son caractère très touchant, c'est qu'elle met au premier plan un personnage, en l'occurrence celui qui est joué par Virginie Efira, qui d'habitude est plutôt un personnage secondaire dans des comédies, dans des drames, qui est celui de la belle-mère en fait. Alors cette belle-mère, elle est dans les contes, mais elle est aussi à l'écran. Et là, Virginie Efira l'incarne et surtout parle à travers ce film de la difficulté pour une nouvelle compagne de s'attacher aux enfants de son compagnon et peut-être parfois de devoir les quitter suite à une séparation. Donc je vous encourage vivement à le voir parce que j'ai trouvé que il était extrêmement touchant et ça fait vraiment du bien à une époque où on parle beaucoup de l'âge des comédiennes d'en voir une qui assume avec panache le sien.
Il est encore en salle. Moi je prends les quelques secondes qu'il reste pour vous parler de EO que j'ai vu hier. Je sais que tu l'as vu aussi Véronique. Et c'est un film un peu ovni, on suit l'histoire d'un âne qui vit des choses qui n'étaient pas prévues pour lui. C'est un âne de cirque au départ et puis il traverse plein de situations très différentes. Peut-être qu'au début du film on se demande un peu ce qu'on regarde, on se dit bon bah ok, où est-ce que ça va, très bien, je suis un âne. Alors les ânes c'est très beau, c'est moi j'ai aucun problème avec les ânes, j'étais une bonne cliente pour ce film. Mais en fait au fur et à mesure de ces tableaux il y a vraiment des traversées d'univers très différentes. Les images aussi sont très belles, je trouvais que la photographie était très belle, il y a un travail de couleur, un travail des fois de renversement de caméra où on peut avoir mettre un peu de temps à comprendre ce qu'on regarde, mais vraiment c'est très beau. Et puis petit à petit on comprend en fait que quelque chose nous est raconté, pas forcément extrêmement réjouissant, moi j'ai trouvé que c'était un film sur la violence aussi quelque part, mais que c'était un beau film. Je sais pas si je vous le résume bien, je sais pas s'il est résumable, mais je vous invite à aller le voir, ouais.
J'ajouterais juste que c'est très étonnant parce que le réalisateur n'est pas un jeune réalisateur et pourtant le film est d'une jeunesse et d'une modernité incroyable.
Mmh. Ouais, et ce sera le mot de la fin, je crois, parce que l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir écouté Caméra Subjective. On se retrouve dans 2 semaines, à la même heure, à 19h, toujours sur Radio G. On parlera toujours de cinéma, le programme, eh bien, vous le découvrirez sur place, comme nous, finalement. Et vous pouvez réécouter le podcast de l'émission sur le site de Radio G, à la page de Caméra Subjective. Bonne soirée et bon film.
Bonsoir.
Radio G, 101.5 FM.
Woke me up at sunrise, bring me close to your dreams. I need to move around now. Feel like a twins. Give me a bravery. Just go let the stars be our light. We will never go by. It's time for an adventure. Run away from the storm. Give me a bravery.